Est-ce que finalement, ce n'est pas le grand retour des syndicats? Parce que vous aviez été, et de la CGT en particulier, vous aviez été très malmené par le mouvement des Gilets jaunes, qui avait très souvent, qui s'était même opposé à vous, avait dénié votre représentativité. C'est, ça y est, l'ancien monde est de retour, hein, Jean-Pierre Mercier.
Bon, écoutez, par rapport aux Gilets jaunes, moi, pour ma part, je les ai soutenus même avant le 17 novembre. Certain que il y a eu beaucoup de commentaires depuis pour dire que le mouvement ouvrier, de toute façon, il était fini, que les syndicats étaient finis, que les salariés redescendraient plus jamais dans la rue. La journée du 5 décembre a démontré tout le contraire. Ça a été une très grosse manifestation, une très grosse journée de grève aussi. 800 000 selon la police, 1,2 million selon les syndicats. Mais moi, je tiens à dire qu'il y a eu, il y a eu un sursaut dans le pays, au niveau du monde du travail, où public, privé, on est descendu dans la rue. Et
ça s'est bien passé.
Oui, ça s'est bien passé, mais ça, on n'avait pas trop de doutes, de toute façon. Mais
L'intérieur était inquiet quand même.
Mais oui, il y a eu toute une opération de com', toujours, quand il y a des grandes journées. On a vu le gouvernement jouer sur la frayeur, sur la peur, l'inquiétude.
Mais c'est vrai qu'il y avait des black blocs, on ne peut pas le nier. Il y avait des éléments perturbateurs. Ça a tapé un petit peu à Paris quand même.
Oui, bien sûr, qui ont fait le jeu, encore une fois, du gouvernement. Et moi, je ne sais pas à quel point il y a une complicité là-dedans.
Pas théorie complotiste.
Non, je ne suis pas complotiste.
Un mot fort de dire complicité.
Oui, mais moi, je l'assume parce que de toute façon, c'est des actes qui mènent strictement à rien du tout. Casser une vitrine d'une banque, c'est pas comme ça qu'on s'attaque au capitalisme. Moi, je milite pour l'action collective, je milite pour la grève, pour que les grèves se généralisent dans toutes les entreprises. Et hier, on a pu voir que c'était pas la grève du public. C'était la grève du public et du privé. Il y a eu beaucoup de salariés de petites, moyennes entreprises du secteur privé qui ont posé une journée de grève, qui ont fait grève, qui sont descendus dans la rue parce qu'ils se sentent tout autant concernés que les salariés du public.
Alors, on pourrait peut-être écouter M. Verrier de Force Ouvrière.
Ah oui, de Force Ouvrière. Il y a eu une intersyndicale ce matin.
Voilà, c'est ça.
En fait, qui était prévue. Et puis, à la sortie de l'intersyndicale, point de M. Verrier pour Force Ouvrière. Écoutez.
Nous n'allons pas relâcher la dynamique qui a été lancée hier. Il y a une participation très large dans les manifestations, mais également dans la grève. Et d'ores et déjà, dans certains secteurs, la grève est reconduite. Et ce que nous voulons, c'est encourager justement toutes celles et tous ceux qui sont en capacité de reconduire la grève. On arrête, on cesse le travail pour se faire entendre et faire en sorte que ceux qui s'associent, pour lesquels ça peut être un peu plus compliqué, bien comprennent que cette dynamique, elle est enclenchée, qu'elle ne se relâche pas. La question, elle est que le gouvernement finisse par comprendre qu'il faut faire pause. Son projet, c'est la plus mauvaise idée qu'on ait pu lui donner. Il faut revenir à la table de négociation au point de départ.
Et puis, manifestation annoncée à la suite de l'intersyndicale, manifestation.
Voilà, mardi, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que néanmoins, on voit un certain tassement des grévistes, du nombre des grévistes aujourd'hui. Est-ce que c'est, on prend sa respiration pour repartir la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous voyez? Comment ça va évoluer? D'abord, je suppose que vous partagez l'analyse de M. Verrier à cette sortie d'intersyndicale.
Bien sûr, moi je la partage. Cette journée de grève, de mobilisation, mardi prochain, elle est la bienvenue. J'ai cru comprendre qu'il y en avait une autre qui se dessinait jeudi prochain. Tant mieux. Il faut absolument que les salariés du privé, des grandes entreprises industrielles, comprennent que les cheminots, les enseignants, les agents de la RATP, ils ne pourront pas gagner pour tout le monde. Ils ne pourront pas gagner pour l'ensemble du pays, pour l'ensemble du monde du travail. Il va falloir qu'on descende de plus en plus nombreux dans la rue et qu'on soit de plus en plus nombreux en grève. Il en va vraiment de nos conditions de vie. Parce qu'on parle beaucoup du système des retraites, bien évidemment, parce que là, c'est l'attaque principale. Mais il y a bien d'autres attaques. Là, je viens d'apprendre.
Oui, mais est-ce que c'est pas une difficulté, justement, de ce mouvement? C'est un peu de brouiller le message. Parce qu'on dit souvent, dans un mouvement revendicatif, il faut avoir un objectif, le poursuivre jusqu'au bout. Est-ce qu'en mélangeant les colères, est-ce qu'on risque pas un petit peu de se brouiller avec l'opinion publique?
Pas du tout. Vous savez, ce que je dis, c'est beaucoup de salariés le ressentent. Il y a bien sûr la taxe sur les retraites, mais il y a aussi le problème du pouvoir d'achat, des salaires qui sont bloqués, qui sont pas assez hauts pour pouvoir finir les fins de mois. C'est tout le sujet que les Gilets jaunes ont mis sur la table pendant un an. C'est les impôts qui augmentent, c'est les prix qui augmentent,
oui,
c'est l'emploi.
On est le pays le plus imposé du monde.
C'est la précarité qui n'arrête pas d'exploser. C'est le chômage qui ne descend jamais. C'est les licenciements, les fermetures d'usines. C'est tout ça qu'on doit mettre sur la table mardi prochain.
Les salaires, d'ailleurs, beaucoup disent, si on augmentait les salaires, on réglerait quand même un certain nombre de problèmes de notre pays, à commencer par celui des retraites.
Bien sûr, et à commencer par mettre à égalité le salaire des femmes et des hommes. Ça amènerait, paraît-il, 4 milliards dans les caisses pour subventionner, pour payer les retraites. Oui, mais l'argent existe. Mmh. Ça, c'est un faux problème de penser, en tout cas, c'est un mensonge véhiculé par le gouvernement, de penser qu'il y a un problème de financement des retraites. C'est faux, oui. Ultra faux. L'argent existe. Il y a même... Moi, je le redis parce que c'est un, je me cache derrière lui courageusement, mais c'est un professeur de la fac de Paris 8 qui réexpliquait que Lionel Jospin avait fait un fonds de subvention pour les retraites, plus la CADES qui est tout un autre système. Il y a 150 milliards qui sont en réserve, qui sont normalement destinés au financement des retraites.
Mais ce que vous dites, gouvernement, c'est que structurellement, il faut changer, parce qu'une fois que ces 150 milliards, si ce sont 150 milliards, sont épuisés, bah, c'est cadeau pour nos enfants ou nos petits-enfants, quoi.
Bah, dans la CADES, il n'y a pas d'argent. Il n'y a que des dettes.
Il faut changer le système parce que les réserves ne sont pas inépuisables, en fait.
Alors, s'il y a quelque chose à changer,
les énergies fossiles.
Moi, je vous dis, s'il y a quelque chose à changer, il faut s'adresser à ceux qui ont l'argent. Nous, on n'a pas d'argent.
Oui.
Nous, on est des salariés, on travaille, on a juste un salaire qui ne nous permet pas de finir les fins de mois. Il y en a là-haut, les milliardaires, ceux qui ont mis plusieurs centaines de millions en une seconde pour financer Notre-Dame de Paris quand elle a brûlé. Ces gens-là, ils ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Eh bien, il faut aller taper dans les bénéfices des entreprises du CAC 40, dans les grandes entreprises, augmenter leurs cotisations patronales. Là, il y aurait largement de quoi financer un système de retraite si jamais il y a un problème de financement.
Il n'est pas sûr que l'économie du pays puisse y résister, mais c'est un autre débat. Je voudrais en venir à ce qui est
alors
sur...
Alors quand Bernard Arnault, il accumule des milliards et des milliards, ça fait du bien à l'économie ?
Oui, est-ce que nous, on a besoin, faut mieux avoir des riches chez nous que chez les autres.
Alors le ruissellement, j'y crois pas du tout.
Non mais moi je crois pas non plus au ruissellement. Je préfère qu'on ait des riches en France.
Moi je veux pas de pauvres.
Moi non plus je veux pas de pauvres, mais quelquefois...
Et donc pour qu'il y ait pas de pauvres, il faut que les riches soient moins riches.
Vous connaissez le proverbe chinois, quand les riches maigrissent, les pauvres meurent. Il y a aussi une adhésion de l'opinion publique, on le voit au mouvement, chacun, je ne sais pas si le terme de grève par procuration d'ailleurs reste valide, mais enfin, bon, apprenons-le pour ce que c'est. Le gouvernement risque gros, mais les syndicats aussi risquent gros, le mouvement risque gros, parce qu'on voit bien que le mécontentement s'accumule, la vie n'est pas facile pour les usagers, ils n'ont pas de moyens de transport, c'est quand même très compliqué. Est-ce qu'à la fin, une journée de grève, ça va, 2, 3, 10 journées de grève, ça va commencer à renauder, comme on dit chez moi.
Vous mettez le doigt sur un problème qui est très réel, c'est la prise de conscience générale que l'ensemble des salariés, qu'on soit du public ou du privé, qu'on doit faire, c'est prendre conscience que si on ne descend pas dans la rue, si là on ne prend pas cette occasion qui nous est offerte par cette attaque d'Emmanuel Macron pour défendre nos conditions de vie, ils vont nous dépouiller. Ils vont... J'ai l'habitude de le dire, je parle comme ça dans l'usine, ils vont nous mettre à poil. C'est-à-dire qu'ils vont nous dépouiller de l'ensemble de nos droits. Oui, c'est des journées de grève, c'est des journées de salaire qu'on va perdre, qu'on doit perdre. Mais c'est un investissement pour nous. C'est demain avoir un système de retraite où on arrête de travailler de plus en plus longtemps pour finir à avoir une pension de retraite de plus en plus misérable. Vous entendez les enseignants qui disent on va perdre plusieurs centaines d'euros par mois.
Hier, Jean-Michel Blanquer était face à une enseignante sur le plateau de LCI qui lui disait exactement ce que vous disiez. Et il lui a dit, mais madame, je ne sais pas comment vous dire que ce que vous dites est faux. Je vous dis que non, vous ne perdrez pas. Alors elle était évidemment, elle disait, mais monsieur le ministre, je n'ai rien d'autre à vous dire que ma bonne foi. Alors évidemment, c'est compliqué de se dire, il dit que c'est faux, mais il ne dit pas ce qui est vrai. Donc...
Quelquefois, j'ai lu un certain nombre de tracts de la CGT, vous avez quand même quelquefois un peu tordu la vérité sur un certain nombre de chiffres.
Parlons cash, le système à points, c'est un bon système qui va nous faire augmenter nos pensions de retraite, Tout le monde est convaincu du contraire. Le système un point,
oui, c'est pas, ça dépend de dire convaincu que c'est faux.
Bah, ça dépend qui fait la gouvernance.
Moi, regardez, je vous dis... Agir Carco, c'est gouverné par les organisations syndicales et ça fonctionne très très bien.
Moi, je vous dis.
Si la gouvernance est donnée aux partenaires sociaux,
écoutez,
tout dépend de la valeur du point.
Je suis désolé. J'ai 51 ans. Ouais. J'en ai vu des gouvernements. J'en ai vu des présidents de la République qui, quand ils étaient dans l'opposition, c'était les belles promesses. Et quand ils arrivent au pouvoir, tous, ils nous ont fait les fauches.
D'accord.
Et la valeur du point, je vous fiche mon billet que de toute façon il va baisser et que nos pensions de retraite vont baisser.
Mais ça condamne pas le système.
C'est le principe de réalité, Madame Bachelot. C'est le principe de réalité. Nous savons, et alors là, mon avis, il est ultra majoritaire dans le pays. Nous savons que demain, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de nous faire travailler plus longtemps et de nous donner des pensions de retraite de plus en plus basses, misérables.
On va être affronté à un choc démographique inévitable. Ce qui compte finalement, système par point ou pas système par point, c'est la capacité contributive des actifs qui peinent aux retraites.
Oui.
On peut tourner autour de 56 000 façons. Si la capacité contributive des actifs augmente, la valeur du point augmentera et garantira les retraites.
Écoutez, moi,
je
suis désolé de vous paraître obtus, mais je n'y crois pas.
C'est la beauté de la discussion.
Je suis convaincu du contraire. Je suis convaincu que dans la tête d'Emmanuel Macron et dans son projet, c'est de nous faire travailler encore plus longtemps. Alors que normalement, on devrait partir en retraite encore plus tôt. On devrait partir à 60 ans, revenir à la retraite à 60 ans, même avant.
Partir avant pour laisser
la place à nos jeunes, pour laisser la place aux jeunes et que les anciens partent en retraite. Et qu'on ait des retraites
minimum. Mais on sait bien
minimum.
Que ça ne donne pas la place aux jeunes de partir plus tôt en retraite.
Mais pourquoi quand vous avez 55 ans et que vous êtes complètement bousillé parce que vous avez passé 30 ans travailler sur la chaîne de production, vous avez le droit à une retraite laisser la place à un jeune.
Qu'il faille introduire dans le système par points des questions de pénibilité, c'est d'ailleurs pas du tout antinomique avec le système par points. Que la pénibilité d'un travail donne des points supplémentaires, je trouve que c'est vraiment une question de justice, à la fois dans certaines professions sur le plan global et aussi sur le plan individuel, parce que vous pouvez exercer la même profession et avoir une question de pénibilité ou de ne pas l'avoir. Mais ça, c'est pas antinomique avec le système par points.
Moi, je veux pas rentrer dans le débat de la pénibilité du travail. Vous savez, il y a eu une explosion des accidents du travail en 2018. Accident du travail déclaré, parce que ça devient de plus en plus compliqué de déclarer son accident du travail, en tout cas dans le privé. Et il y a eu une augmentation des décès au travail, d'accidents du travail mortels. Vous savez, aujourd'hui, on est de moins en moins nombreux à travailler pour travailler de plus en plus dur, sortir encore plus de richesses à moins nombreux. Forcément, ça fait du dégât physiquement, ça fait du dégât sur la santé. Et encore une fois, la France est un pays ultra riche. Moi, je regarde là-haut, je regarde ces milliardaires qui n'arrêtent pas de ramasser des bénéfices sur bénéfices. La France est la championne d'Europe de redistribution des bénéfices pour les actionnaires. Mon Dieu, mais cet argent, c'est nous qui l'avons créé. Pourquoi eux, ils sont ultra protégés? Qu'on ne leur demande jamais rien, aucun sacrifice, aucun effort. Mais oui, on va revenir sur l'impôt sur la grande fortune qui a été supprimée.
Ça résout pas le problème.
100 milliards, il y a eu un excellent reportage dans les médias.
France,
100 milliards de CICE qui sont déversés à fonds perdus dans les caisses.
Attendez, la France est le pays le plus imposé du monde.
Mais c'est l'État qui donne le plus d'argent aux grandes entreprises privées.
Les économistes disent que c'est quand même l'un des pays qui efface le plus les inégalités, puisque après paiement des impôts, les inégalités entre les très riches et les très pauvres se réduisent. Alors, il faudrait que Pascal Péri soit là, mais je crois de 5 fois.
Expliquez-moi le mouvement des Gilets jaunes. Expliquez-moi pourquoi la France a encore augmenté le nombre de ses pauvres. Plus de 9 millions de pauvres en France. Pourquoi le chômage n'arrive pas à baisser? Pourquoi la précarité n'arrête pas d'augmenter? Pourquoi on a du mal à finir nos fins de mois alors qu'on travaille de plus en plus dur? C'est ça qu'on vit.
Il y a quand même des chiffres qui sont intéressants. Par exemple, le taux de liquidation des retraites dans la tranche 60 à 64 ans est de 72% dans notre pays. Il est par exemple de 56% en Allemagne, de 40%, de 40% en Italie et de 34% en Suède. On a le taux de liquidation des retraites sur la tranche 60-64 ans le plus élevé. C'est dans notre pays qu'on passe le plus de temps à la retraite, 28 ans en moyenne. C'est un record inégalé dans le monde.
Tant
le
mieux. Temps, mais, on doit
mais
en être
je,
fier.
Je m'en réjouis.
Ben, il faut l'augmenter,
mais,
ce taux.
Mais attendez, vous voulez l'augmenter, vous voyez bien que notre pays ne va pas pouvoir l'encaisser, ça.
Il y a quelques années, c'était 4 cotisants pour un retraité, je crois. Et puis maintenant, on arrive à 2 pour 1. On ne peut pas faire 1 pour 1.
Baisser,
c'est pas possible.
Vous partez... Moi, je vous trouve pessimiste, que vous avez baissé les bras.
Non, et vous n'avez pas baissé les bras.
Mais si,
mais vous savez, ce que disait Lénine, les faits sont têtus. Il devrait vous parler, Lénine.
Merci, merci. Mais vous partez du principe que ce n'est pas possible de demander de l'argent aux plus riches de ce pays, aux milliardaires et aux grands capitalistes de ces grandes entreprises.
Jean-Pierre Mercier, je dis qu'à un moment, les grandes fortunes, elles se tirent.
Mais elles sont encore là, la preuve, Bernard Arnault, la famille Peugeot, etc. Muyez, d'abord, si certains partent, c'est qu'on les laisse partir aussi. Eh ben, confisquons-leur leur fortune. Pourquoi c'est toujours à nous? Non, mais là, il y a un principe qui, de toute façon, ne passe plus dans le pays, ne passe plus dans le monde du travail. Qu'on continue, nous, à devoir payer. Nous, on travaille pour payer et on n'arrive pas à vivre. Il est là le principe. Ah et non, ça, face à ça, vous ne pourrez strictement rien du tout.
Pas en chassant
les travailleurs vont être de plus en plus nombreux à descendre dans la rue. Ils vont être de plus en plus nombreux. En tout cas, on y milite. On y travaille pour qu'ils soient de plus en plus en grève. Et entre nous, c'est la seule solution pour régler les problèmes du monde du travail.
J'ai une question, Jean-Pierre Mercier, pour revenir à la réforme des retraites. Vous êtes d'accord pour dire ou pas, pour dire qu'il faut réformer le système, ou vous dites non, ben là tout fonctionne très bien et il n'est absolument pas nécessaire de changer quoi que ce soit. Ah. La majorité des Français qui soutient votre mouvement soutient aussi le fait qu'il faille réformer.
Alors moi, ce que j'entends par réforme, c'est oui, revenir à la retraite à 60 ans, revenir à 37,5 années de cotisation pour partir en retraite pleine et entière. Oui, il faudrait revenir en arrière, il faudrait reprendre ce qu'on a laissé partir au gouvernement et puis à nos grands patrons. Bien sûr qu'il y a encore il y a des revendications à mettre sur la table, mais pas aller dans le sens que M. Macron ou le MEDEF veut qu'on aille. Ça, c'est hors de question. Alors, parce que ça, c'est pas tenable au niveau de nos conditions de vie.
C'est assez antinomique, parce que si vous baissez la retraite à 60 ans, bon, d'accord, c'est pas 28 ans de temps qu'on va passer à la retraite, c'est effectivement 32 ou 34, ou 34 ans à la retraite. Et en même temps, vous dites qu'il y aura moins de cotisants, parce que vous diminuez les trimestres de cotisation. Vous financez comment votre système?
En gros, ça ne m'étonne pas, Roselyne Bachelot, ça ne m'étonne pas que vous remettiez la discussion au même point, parce que vous oubliez toujours l'argument essentiel qu'il faut faire payer dans ce pays ceux qui refusent de payer et qui ne payent plus, c'est-à-dire les actionnaires de ces très grandes entreprises du CAC 40, les grands capitalistes qui ont accumulé ces dernières années une montagne de fortune de milliards d'euros. Oui. C'est ces gens-là qu'il faut mettre à contribution.
Il y a aussi des petits actionnaires.
Moi, je ne vous parle pas des tout petits actionnaires. Attention. Je vous parle du grand patronat. Je vous parle de ces grandes entreprises. La famille Peugeot qui va se marier avec la famille Agnelli de Fiat. Ils vont peser 50 milliards de dollars.
Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont
pesé 50 milliards. Il n'y a pas d'argent là-dedans, derrière.
Ah bah, c'est l'argent de l'entreprise aussi.
Quand le groupe PSA, que je connais bien, rachète le groupe Opel Vauxhall, pour 3 milliards, ils mettent 3 milliards sur la table, même pas un prêt en banque, rien du tout. Ils ont de l'argent.
Mais heureusement, avec ça, ils achètent Opel, c'est drôlement bien.
Oui, mais derrière, ils suppriment 6 000 emplois.
C'est l'argent de
l'entreprise. Et derrière, ils suppriment 6 000 emplois. Merci. Non, l'argent, ce que je veux vous démontrer, c'est que l'argent existe en France. Il faut simplement regarder où il est. Il n'est plus dans notre poche.
En fait, Jean-Pierre Mercier,
nous, on n'en a plus, on n'en a jamais eu.
Qu'est-ce que vous voulez? On a entendu la CGT qui dit, de toute façon, sur les retraites, c'est retrait ou rien. Vous voulez quoi? Vous voulez que le quinquennat soit terminé, qu'Emmanuel Macron s'en aille, qu'on arrête toutes les réformes et que... C'est une question, hein, parce que quand
je
vous...
Je vous réponds. Ouais,
alors dites-moi.
Je vous réponds.
Vous répondez oui.
Ce que je veux, moi, le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est toutes les attaques que l'on a subies ces 10 dernières années, ces 20, ces 30 dernières années, avec tous les gouvernements de gauche et de droite qui se sont succédés, ça doit s'arrêter. Et pour s'arrêter, oui,
il faudrait qu'il y ait dans ce pays... C'est quoi l'alternance politique que vous souhaitez ?
Alors, l'alternance politique, moi je suis pour que, vous savez, le monde du travail, tous ceux qui n'ont que leur salaire, que leur allocation ou leur retraite pour vivre, bah oui, ça serait à eux de prendre les commandes. Serait à eux d'imposer leurs revendications. Ça serait à eux de contrôler ce qui se passe dans les grandes entreprises, de contrôler les décisions de ces grands actionnaires,
de licencier ou pas licencier. Globaux, parce que on voit bien.
J'ai pas fini parce que juste je vous coupe la parole.
J'ai une autre question à vous poser.
Oui, là, moi, vous savez, le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est pas mon problème.
Vous
moi,
en
mon
avez
problème,
rien à cirer.
C'est que, en tout cas, j'y pense pas quand je me rase le matin.
D'accord.
Mais
vous n'êtes donc pas candidat à la présidence.
Vous savez, si ce mouvement, il devait prendre de l'ampleur, si on était de plus en plus nombreux à descendre dans la rue, et on va voir mardi, à se mettre en grève, et y compris que cette grève, elle gagne les grandes entreprises industrielles du privé, eh bien ça pourrait redonner confiance, ça pourrait donner du courage à l'ensemble du monde du travail pour faire stopper les sacrifices, faire stopper les efforts, faire stopper les attaques, pour après imposer nos revendications, nos conditions.
Je pose la question, je voulais en venir, c'est quel projet politique derrière ça ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une tentative de récupération politique. Ah, tous les partis... Pardon, c'est un peu trivial ce que la façon de m'exprimer.
C'est pas grave.
Surtout qu'il n'y a pas que des gars là-dedans. Tous les opposants à Macron, qui sont quand même très nombreux et qui piétinent dans l'hypothèse de 2022, ils sont tous là à essayer de récupérer votre mouvement. On a entendu par exemple M. Bardella ce matin, je crois que oui, il était ce matin sur RTL, dire que voilà, et là ils arrivent, ils veulent absolument vous récupérer.
Oui. Il l'assume en disant il faut voter pour le Rassemblement National.
Voilà, c'est ça la solution. Mais la solution de sortie de votre mouvement, c'est de voter pour le Rassemblement National.
Bien sûr que le Front National voudrait récupérer la colère sociale qu'il y a dans ce pays et qui est très grande, qui est profonde, bien sûr. Mais ça, c'est des politiciens. Ce sont des politiciens.
Oui, mais faudra
arriver...
En 2022, il faudra bien, Jean-Pierre Mercier, que vous nous disiez pour qui vous allez voter.
Ah, moi, si vous dire, alors vraiment, si vous voulez que je vous dise pour qui je vais voter, je vais sans doute voter pour Nathalie Arthaud. J'espère qu'elle se représentera aux prochaines présidentielles. Ouais, mais le problème n'est pas du tout là.
Les Français, ils lui ont déjà dit les cinq lettres.
Le problème n'est pas du tout là. On n'en est pas là. Moi, je ne veux pas arriver sur un terrain électoraliste. Parce que justement, ça, c'est une impasse, le terrain électoraliste. Là où on peut ouvrir des perspectives. Oui, je sais. Là, vous montez au rideau, comme on dit. Mais la vraie perspective... C'est pas le terrain électoraliste, c'est le terrain de la lutte de classe, c'est le terrain de la lutte collective, de la lutte sociale. C'est là où on pourra véritablement changer les choses quand les travailleurs ils seront mobilisés, déterminés, massivement dans la rue et massivement en grève. C'est vraiment la seule perspective. Alors celle-là qu'on n'a pas essayé depuis très très longtemps, qu'on n'a pas mis en route depuis très longtemps, mais c'est la seule qui vaille le coup.
Vous y croyez ?
Mais j'en suis convaincu, mais à 300%, vous ne pouvez même pas imaginer comment.
Deux choses, Jean-Pierre Mercier. Pour les profs, on en a parlé juste avant avec Roselyne Bachelot, ces profs qui sont inquiets, on a vu qu'il y avait des simulateurs qui avaient été mis en place, notamment par la CGT. D'ailleurs, il l'a dit, ces simulateurs, il faut chasser les fake news, a dit le Premier ministre. Il le dit, les pensions des profs ne baisseront pas.
Mais pourquoi le gouvernement ne fait pas de simulateurs ?
Alors vous savez qu'il y en a certains qui lui disent au sein de son équipe, disent « Monsieur le Premier ministre, il faut faire un simulateur
». Mais bien sûr, mais en gros, moi j'ai quand même le sentiment, voire la conviction qu'il n'en fait pas, parce que tout le monde sait de toute façon qu'à terme, ça conduit à une baisse des pensions de retraite. Vous savez, quand le Premier ministre, il est assez mal à l'aise. C'est vrai qu'il y a un mouvement social qui a démarré. Il y a eu une forte journée hier au niveau du 5 décembre. Il y a une nouvelle journée qui est programmée mardi, peut-être une troisième jeudi. Il sent que peut-être que ça monte. Et en tout cas, moi, je l'espère que ça monte. Mardi, il faudra qu'on soit encore plus nombreux dans la rue, à la fois du public et du privé. Parce que,
c'est de nature à rassurer les profs, quand même, ce qu'il dit là. Quand il dit
il ne va pas dire le contraire.
Il ne va pas dire le contraire, mais si ça n'est pas le cas, on lui ressortira la vidéo en lui disant « Monsieur le Premier ministre, vous avez dit ça le 6 décembre 2019. »
Dans 10 ans, dans 15 ans, les profs lui ressortiront Édouard Philippe. Oui, il sera de toute façon plus élu. Il sera en retraite, peut-être. En disant « Là, en 2019, vous nous avez menti. »
Parce qu'on va augmenter les salaires. salaires. Et ça, ça fait déjà plusieurs jours qu'ils le disent. On va augmenter progressivement les salaires des profs pour éviter que les pensions ne baissent.
Bien sûr, la main sur le cœur.
Donc vous n'y croyez pas une seconde.
Mais bien sûr qu'on n'y croit pas. Parce qu'on nous dit que de toute façon, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc comment vous dire ? Là, il est dans une situation où il doit justifier l'injustifiable, il doit convaincre, mais de toute façon, sans reculer. Reculer sur le fond de l'attaque sur les retraites. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup des profs, on parle beaucoup des cheminots et des agents de la RATP, parce que c'est les trois métiers qui sont hyper mobilisés.
Mais c'est ça.
Mobilisés. Mais derrière, il y a tous les salariés du secteur privé
les salariés du privé pour l'instant.
Pardon,
les salariés de la fonction publique étaient
hier,
dans la rue.
Hier, il n'y en avait pas des salariés.
Il y en avait, mais c'était
privé.
Quand même largement des salariés de la fonction publique.
Des salariés du secteur
parce que
privé.
Bien sûr que pour l'instant, c'est pas.
Ce sont les personnes qui sont les plus fragilisées par le système de retraite à points. Vous avez tout à fait raison. Dans la fonction publique, les enseignants en première ligne seront défavorisés. D'où cette promesse. Et pour l'instant, on peut leur faire un procès d'intention. Mais enfin, ils s'engagent aujourd'hui à revaloriser les traitements des profs pour qu'en effet, ils ne perdent pas 600 à 800 euros par mois sur leur pension, ce qui serait une profonde injustice. Donc, on peut leur donner ce crédit qu'ils ne vont pas mettre les profs dans la rue tous les ans.
Il faut que je réponde. Les salariés du secteur privé, ils vont voir leur pension calculée non plus sur les 25 meilleures années, mais sur l'ensemble de la carrière. Mm-hmm. Quand je dis ça, normalement, ça doit faire un choc. Le salarié du privé, il doit se dire, la pension, quand je vais avoir une pension de 1100 euros, en fait, je vais descendre en dessous des 1000 euros. C'est ça que ça veut dire mécaniquement.
En dessous de 1000 euros, c'est ce qu'ils nous ont promis aussi.
Bien sûr, mais il y a beaucoup de promesses là-dedans.
Autre chose.
Moi, ce que je sais, c'est que si cette réforme, elle passe, si cette attaque, elle passe, nous, salariés du privé, nous allons morfler. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça que nous le vivons. Il faut que les salariés du privé descendent dans la rue.
Au sujet des régimes spéciaux, parce que c'est quand même le nerf de la guerre de cette réforme, c'est de supprimer ces régimes spéciaux. Il dit que la transition se fera.
Sur celui des policiers, vous avez entendu.
Des militaires.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc visiblement, le système universel du.
Je termine juste ma phrase, si vous voulez bien. La transition très en douceur. C'est-à-dire, parce qu'on a entendu beaucoup de cheminots notamment qui disaient attendez, moi j'ai signé un contrat aussi parce que je savais qu'elle allait être mon régime de retraite, qui était intéressant. On ne change pas les règles au milieu du jeu. Ce qui se comprend absolument, bien entendu, ça peut s'entendre. Mm-hmm. Là, il dit la transition va se faire extrêmement en douceur pour que justement l'impact soit
progressif.
Plus doux. Et c'est ça.
C'est un argument supplémentaire pour faire grève et pour descendre dans la rue, que l'on soit du secteur public ou du secteur privé, parce que ça veut dire que pour mes enfants, je m'en lave les mains. Ce que je suis en train, si je me mets pas en grève, si je descends pas dans la rue. Alors, je promets à mes enfants de travailler jusqu'à 65 ans pour avoir une pension de misère.
Mais quand il fait ça, Claire,
quand vous êtes un père de famille ou une mère de famille, vous ne pouvez pas l'accepter.
En promettant qu'il y aura une transition qui sera extrêmement douce et progressive, qu'on ne va peut-être pas garder cette borne de la génération 63, mais faire passer plutôt cette réforme des retraites pour la génération 73, en laissant entendre depuis quelques jours que finalement on ne va pas être braqué sur la réforme financière, sur l'équilibre à tout craint en 2025, là il peut récupérer des syndicats comme la CFDT et ça, même si on a bien compris que la CGT et FO,
ferait
bloc contre cette réforme.
Oui, on connaît les syndicats qui vont vouloir aller à la table des négociations. C'est pour ça qu'il faut que les grévistes, les travailleurs qui sont en grève, ils contrôlent leur mouvement, ils dirigent leur mouvement, parce que c'est eux qui doivent décider quand est-ce qu'on démarre et quand est-ce qu'on arrête une grève.
Bien, en tout cas, merci.